Nous allons à présent vous laisser la parole. On a un petit peu de retard, on en est désolé. Donc, les questions en fait que je voulais vous poser sont les mêmes que celles du mouvement SOL. Est-ce que vous pouvez nous présenter, bien sûr, rappeler Habitat Humanisme, sa mission, etc., mais peut-être revenir de manière la plus concrète possible sur la mise en place de la démarche d'évaluation chez vous, qui, par contre, à la différence de SOL, remonte à quelques années et c'est, on va dire, un petit peu étoffé au fur et à mesure de l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu tout ça et puis nous aborder les outils, les opportunités que tout cela vous a apporté, mais également aussi ne pas oublier les difficultés ou les contraintes qu'il a fallu surmonter.
Très bien, merci Isabelle. Aussi, j'ai une petite présentation que je vais essayer de charger. Alors, je crois que je vais la charger dans une version où vous pouvez intervenir dessus. Donc, je vous demanderai de ne pas intervenir, voilà, de me laisser passer moi-même les slides. OK. Alors, déjà, simplement pour… donc, je me présente, Marie Savreux. Je suis directrice de la communication et du marketing au sein de la Fédération Habitat Humanisme. Juste en deux mots, Habitat Humanisme est une association qui agit depuis 35 ans en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. Donc, très concrètement, on produit du logement, on mobilise du logement et on accompagne les personnes que nous logeons. Habitat Humanisme est une structure un peu atypique dans le paysage associatif, en cela qu'elle a développé dès le départ des outils économiques à vocation sociale pour mener à bien son action, et notamment des sociétés foncières dont le capital est ouvert à des investisseurs solidaires. Habitat Humanisme est présent dans 80 départements en France à travers des associations affiliées à la fédération. Donc, on est un mouvement un peu comme Cécile, qui est très décentralisé, bien qu'on ait une fédération nationale. Voilà. Alors, effectivement, nous avons commencé une démarche d'impact, enfin de mesure, il y a à peu près 5 ans, sous la pression, il faut le reconnaître, à la demande de nos financeurs institutionnels, qui sont notamment des personnes comme des structures comme Mirova, qui investissent dans nos foncières, notamment des fonds d'épargne salariale. Et donc, on a vu arriver, plutôt 5 ans, des premiers référentiels qui, pour tout dire, je suis désolée pour Fabien qui a parlé tout à l'heure, c'est sûr qu'au départ, c'était quand même des référentiels qui nous ont paru un peu en décalage avec notre réalité, un peu hors sol, avec des indicateurs qui étaient très éloignés, ou en tout cas assez éloignés de notre réalité. Ça nous a conduit à vouloir prendre la main. Alors, juste un exemple, par exemple, je vais souvent en reparler parce qu'il est assez typique. Je pense que du point de vue d'acteurs économiques, comme ces fonds d'épargne salariale, un des critères très importants de l'insertion sociale, c'est l'emploi. Or, Habitat Humanisme loge des personnes qui sont souvent très éloignées de l'emploi. Donc, pour nous, c'est un indicateur qui n'était pas extrêmement pertinent par rapport à notre action. Et nous avons voulu, du coup, prendre la main sur nos propres et construire nos propres indicateurs qui soient plus adaptés à notre action et en accord avec nos objectifs. Et effectivement, il y a une réelle dimension politique de la mesure d'impact. Néanmoins, c'est ce qu'on a senti très vite sous cette pression parce qu'on n'a pas qu'un seul financeur. Donc, on avait plusieurs référentiels qui nous arrivaient. Donc, à la fois, c'était un peu compliqué. Et d'autre part, on a senti comme c'était très important pour un mouvement comme Habitat Humanisme de créer notre propre référentiel, de prendre une réflexion qui, pour pouvoir être en accord avec notre objectif, c'est-à-dire de pouvoir définir nous-mêmes quels indicateurs étaient pertinents et échapper à une logique qui pouvait être celle du monde marchand, en tout cas d'acteurs qui étaient très éloignés de notre réalité. Voilà. Et d'autre part, il faut reconnaître que cette démarche a été un véritable aiguillon en interne, à la fois pour améliorer la collecte et la consolidation des données d'activité, parce que c'est une grosse problématique pour un mouvement comme Habitat Humanisme qui est décentralisé, qui est donc dont l'action se déroule sur tout le territoire avec des équipes différentes, différenciées et qui sont pour beaucoup constituées de bénévoles, et où donc la culture, ne serait-ce que de la collecte d'informations, n'est pas forcément également partagée. Donc ça nous a obligés, et ça c'était extrêmement bénéfique, à entrer dans une démarche d'amélioration de cette collecte et de cette consolidation de données. D'autre part, cette démarche d'évaluation d'impact nous a permis aussi d'avancer par rapport à un certain tabou de l'évaluation qui existe, en tout cas au sein de la vitamine, mais je pense au sein d'autres acteurs de l'accompagnement, notamment des personnes en difficulté. Et les acteurs, que ce soit des bénévoles ou des travailleurs sociaux, avaient effectivement d'immenses réticences par rapport à cette démarche, ne serait-ce que de l'évaluation, à la fois parce qu'ils le ressentaient comme une évaluation de leur propre pratique, ce qui n'est pas dans la culture du travail social, et d'autre part, où on a surtout des obligations de moyens, et d'autre part, comme aussi un regard critique sur le parcours des personnes accompagnées, et donc qui était effectivement inacceptable. Et donc, évidemment que l'impact ne s'intéresse pas aux personnes en particulier, ni les acteurs, ni les personnes, les bénéficiaires, mais donc, le fait de commencer à travailler a permis petit à petit, on n'est pas au bout, hein, mais en tout cas d'avoir une vraie pédagogie en interne par rapport à ce tabou. Et enfin, comme d'autres l'ont dit, évidemment, à terme, pour nous permettre d'avoir une meilleure perspective, plus large, plus profonde, je dirais, de notre action pour un meilleur pilotage. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris ? On a commencé par effectivement travailler le volet plus quantitatif en faisant un inventaire et une compilation des données d'activité disponibles issues du terrain, ce qui était un peu la première fois qu'on faisait cet exercice. Donc, on a récupéré tout ce qu'on avait, à la fois dans le domaine du logement, de l'accompagnement des personnes logées. On a fait un gros travail d'analyse en termes d'abord déjà de faire le tri entre ce qui était représentatif ou pas, parce qu'il y avait certaines données qui ne l'étaient pas, ce qui était pertinent par rapport à la question de l'impact, ce qui était visible aussi, parce qu'on a parfois réussi à monter des magnifiques indicateurs usine à gaz qui étaient absolument incompréhensibles même pour nous, donc c'est tombé. Et on a aussi essayé de travailler la contextualisation, c'est-à-dire de resituer ces données par rapport à leur environnement, afin qu'elle puisse être plus signifiante. Parce que parfois, un chiffre, une donnée peut être parfaitement… c'est une donnée brute qui n'a pas forcément de sens si on ne la compare pas à son environnement, on ne la contextualise pas. On a ainsi identifié un certain nombre d'indicateurs qui soient à la fois très caractéristiques de notre action et qu'on a pu valoriser en les contextualisant par rapport à d'autres données du secteur, qui étaient par exemple issues de l'INSEE, de la Fondation Abbé Pierre et les chiffres des bailleurs sociaux. Alors, ça aboutit, on en est au quatrième rapport d'impact qu'on a publié. Alors, je vous donne quelques indicateurs, je ne vais pas être trop longue. Par exemple, un des indicateurs importants, c'est une série d'indicateurs autour du profil des publics que nous logeons. On a mis en évidence qu'Habitat Humanisme logeait des personnes qui étaient particulièrement précaires et vulnérables au mal logement. Donc, par exemple, vous voyez que, ça c'est les indicateurs 2019, 77% des familles qui arrivent dans nos logements, des ménages, hein, ménages qui sont logés dans nos logements vivent sous le seuil de pauvreté. On peut mettre en comparaison avec le pourcentage de ces familles sous le seuil de pauvreté qui sont logées aujourd'hui dans le parc social, qui ne sont que 34%. Et on a d'autres indicateurs que je ne vous ai pas mis là, mais qui mettent aussi en évidence à quel point, évidemment, le faible revenu est un facteur très aggravant sur la recherche de logement. C'est évident, mais c'est une réalité. Et que 70% de ces personnes étaient privées de logement personnel. Donc, en fait, on loge des personnes vivant sous le seuil de pauvreté et n'ayant pas accès à un logement personnel. Par exemple, ça, c'est un des indicateurs. Il y en a toute une série sur les profils. Et puis, d'autre part, on s'est intéressé à la production de logements, puisque je vous ai dit qu'à travers la foncière d'Habitat Humanisme, nous produisons des logements accessibles aux plus pauvres. Et donc, on a effectivement aussi mis en évidence le fait que ces logements qui sont produits par la foncière sont accessibles aux plus pauvres. Donc, en fait, ils sont accessibles aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté, qui représentent 73% des demandeurs de logement social en France, et qu'il n'y en a que 23% de ces logements qui sont produits par le parc social en 2019. Voilà. Donc là, c'est une manière de centrer nos indicateurs, d'une part sur les publics, donc le fait que nous venons en aide à des publics qui n'ont pas d'autres solutions, ou très peu, que nous produisons une offre de logement qui est également structurellement insuffisante en France, et notamment, et c'est la troisième série d'indicateurs, dans des zones très tendues du territoire, ces logements sont majoritairement produits aux trois quarts dans des zones du territoire très tendues, où le marché de l'immobilier est très tendu, et où donc ces logements accessibles aux plus pauvres, donc à très faible loyer, sont structurellement extrêmement minoritaires. Voilà, donc ça, c'était cet aspect plutôt quantitatif. Nous sommes en travail continu sur cet aspect-là, mais aujourd'hui, on a stabilisé comme ça un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de mettre à jour un rapport depuis 4 ans. Et puis, parallèlement, nous avons attaqué le volet le plus compliqué, qui est le volet qualitatif, qu'on a appelé qualitatif, et qui donc vise à évaluer l'impact de notre action sur la partie prenante que sont nos bénéficiaires, donc les personnes que nous jouons et accompagnons. On va commencer par ça, parce qu'on a bien en tête, effectivement, éventuellement, d'aller sur d'autres parties prenantes, en interne ou même sur le corps social en général, mais on va commencer par le plus direct, qui sont les personnes que nous logeons et que nous accompagnons. Comme l'a dit Isabelle en introduction, c'est une démarche qui est très complexe, car les données sont éminemment subjectives et effectivement aussi sujettes à interprétation qui peuvent être même contradictoires. Je vous donne un autre exemple qui est effectivement un peu en rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'emploi. Si on loge une maman seule quand elle arrive dans le logement habitabiliste, va quitter son emploi, par exemple. Donc ça, je veux dire, quand on le regarde comme ça, on peut se dire que c'est un indicateur un peu négatif, cette personne s'est éloignée de l'emploi. Mais on peut aussi se dire, bon, cette maman, dans le fait d'être stabilisée dans un logement, elle va commencer par s'occuper de ses enfants, par se réapproprier sa parentalité et permettre qu'à terme, elle soit plus en mesure de se réinsérer par l'emploi. Bon, c'est la même réalité qui peut amener à une interprétation tout à fait différente en termes d'impact. Voilà. Et évidemment, comme l'a dit également Isabelle, la question majeure de l'attribution, les évolutions personnelles d'une personne en difficulté, en l'occurrence, sont extrêmement multifactorielles, comme pour tout un chacun d'ailleurs. Comment établir qu'elles sont bien le résultat de notre action, tout au moins en partie? Voilà. Donc, c'est face à cette difficulté qu'on s'est trouvé quand on a abordé ce volet qualitatif. Donc, effectivement, on s'est tourné vers un cabinet de... Nous également. La première partie, on l'a faite seule, mais là, on a travaillé avec un cabinet d'impact. Il y en a beaucoup sur le marché. Et on a travaillé avec eux sur ce dont parlait également Isabelle en introduction, qui est la fameuse théorie du changement. Donc, établir une cartographie des liens de cause à effet de notre action sur la vie des personnes logées. Donc, c'est un énorme travail. Je ne vous ai pas mis la matrice, hein, parce que est très, très, très compliqué. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a décortiqué tous les éléments de notre action en regardant quels étaient d'abord le résultat attendu, puis l'impact à plus long terme dans tous les différents domaines. On est arrivé à une énorme matrice qu'on a ensuite simplifiée avec 4 dimensions, etc. Bon. Pour tout dire, ça a été surtout important en interne pour adopter une vision partagée. Parce que finalement, on est un certain nombre d'acteurs. Je vous l'ai dit, la fédération, les associations, il y a des gens qui travaillent dans le logement, d'autres qui travaillent plutôt sur la partie accompagnement. Et le fait de pouvoir réfléchir ensemble et adopter, aboutir à une vision partagée déjà de comment on imagine notre action, c'était déjà extrêmement important. Donc, je dirais que c'était une étape nécessaire. Néanmoins, quand on est arrivé au moment crucial de se dire, bon, bah, une fois qu'on a établi cette belle matrice, cette théorie, comment on va passer à établir des indicateurs et collecter des données pour élaborer ces indicateurs, c'est là où on s'est retrouvé très coincé et la personne du cabinet avec qui on travaillait, finalement, on n'arrivait à rien parce que on était dans une vision beaucoup trop théorique et on se disait nous-mêmes que les questions qu'on était en train d'élaborer étaient très éloignées de la réalité de nos personnes. Par exemple, on avait établi dans nos dimensions que l'accès à la citoyenneté était un indicateur d'impact important. Quand on s'est retrouvé à essayer d'élaborer une question adressée à une personne qu'on loge à propos de la citoyenneté, on s'est rapidement aperçu qu'on était un peu coincé en termes de vocabulaire, en termes de notions, et que finalement, toutes les personnes autour de la table qui avaient bâti cette théorie du changement étaient nous-mêmes des personnes très éloignées de la réalité de notre public, qu'on avait un peu du mal à passer de la théorie à la question. Bref, donc nous sommes repassés par une étape terrain, en faisant toute une série d'entretiens exploratoires auprès de nos personnes logées, ce qui nous a permis donc de réouvrir entièrement, parce que finalement, la théorie du changement avait refermé, on avait commencé par un truc très large, puis on s'était refermé sur une matrice, et là, on a réouvert entièrement en menant ces entretiens très exploratoires, très ouverts auprès des personnes pour écouter leur histoire, l'avant, l'après, et entendre leur version, leur histoire, leurs mots. Et du coup, l'analyse de ces différents entretiens nous a permis d'élaborer un questionnaire qui, du coup, était plus adapté, évidemment, à la fois au vécu, donc à ce qui ressortait réellement et qu'on pouvait recouper de la réalité des personnes, et également Je veux dire, c'est une évidence, mais d'adapter le champ sémantique de notre expression, parce qu'effectivement, on était un peu loin, nous-mêmes, du vocabulaire tout simplement utilisé par les personnes que nous logeons. Donc, nous avons élaboré ce questionnaire d'impact, dont l'objectif est donc d'identifier les changements intervenus dans la vie des personnes depuis leur logement et leur accompagnement, et qui sont attribuables à l'itinérisme. On l'a retesté pour être sûr que ça passait, on l'a réajusté, et on est aujourd'hui dans une phase de passation de ce questionnaire auprès d'un échantillon représentatif de nos locataires, avec 4 segments, selon le type de logement fourni, parce qu'évidemment, selon qu'on est dans un logement collectif ou individuel, ça ne sera pas la même chose, idem pour le temporaire ou le pérenne. Voilà, donc le Covid a un petit peu contrarié nos plans, puisqu'on était parti pour faire de la passation face à face. Donc là, on est dans une étape plutôt téléphone et on réajustera avec du face-à-face dès qu'on pourra sur les publics les plus en difficulté. Voilà le point où nous en sommes. Et pour conclure, je pense que j'ai été rapide du coup, je dirais que voilà, nous avons conscience, la vitaministe, qu'on est dans un processus qui est long et qui est itératif. Et que c'est bien comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va avancer et on va... beaucoup découvrir en avançant ce qu'on a déjà fait, en fait déjà sur la première partie, plutôt sur la partie quantitative, que c'est un gros facteur de progrès interne et qu'on est vraiment rentré dans un process d'amélioration de la collecte et de la qualité de la donnée qui est très important et qu'on n'est pas au bout. Et voilà, donc on va pouvoir avoir plus de données qui nous permettront de créer plus d'indicateurs. Je le dis, une éducation, une pédagogie interne sur l'évaluation, qui je pense aussi va être, alors qui d'ailleurs secoue, hein, je dirais, on est en train de commencer les questionnaires, on a déjà reçu quelques coups de fil de travailleurs sociaux furieux, hein, donc on n'est pas au bout, hein, du travail, mais en tout cas ça fait bouger les lignes. Et bien ça, ce n'est pas encore le cas parce qu'on est qu'au début du travail, mais certainement un ajustement de nos pratiques pour plus d'efficacité en cohérence avec nos objectifs. C'est quand même à la fin une bonne finalité. Évidemment, c'est un facteur de légitimation important aux yeux de nos partenaires, parce que eux, ils continuent à avancer. Donc, c'est vrai que, on sent que le train va vite et que derrière, on n'est pas trop pour. Ce que je ne sais pas ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin aussi d'avancer, parce qu'eux, avançant très vite, il faut quand même aussi qu'on ne soit pas trop en retard et aussi qu'on garde la main. Et je pense que je finirai par ça, que c'est très, très important qu'on garde la main, qu'on garde une certaine indépendance et une vraie cohérence. Par rapport à cette démarche, par rapport à ce que nous voulons faire, nos objectifs. Notamment, je vous donne encore un dernier exemple, l'un des derniers référentiels qu'on a reçus de la part de nos institutionnels avec qui on travaille, hein, et en bonne intelligence, je ne peux pas dire le contraire, au contraire, c'est beaucoup ouvert, on a un travail qui est collectif, mais comme l'a dit Fabien tout à l'heure, c'est vrai aussi que la difficulté des institutionnels financeurs, c'est qu'eux, ils doivent... collationner des données, ils doivent compiler des données de plusieurs acteurs. Donc forcément, la singularité de chaque acteur a du mal à passer dans la fourche codine de la compilation. Voilà. Bon, alors c'est toute cette tension. Et par exemple, le dernier référentiel qu'on a reçu, il y avait toute une série d'indicateurs sur la place des femmes dans notre organisation. Bon, on y a répondu, en plus, on est très bon. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, c'est notre objectif à Vitaminis, c'est pas qu'il y ait plus de femmes dans l'organisation, pas du tout. Notre objectif, c'est de loger et d'accompagner vers l'insertion des publics en difficulté. Donc, on va garder ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut cette indépendance et cette cohérence, elle est fondamentale. Voilà, je crois que j'ai fini.
Merci Marie. Je vais commencer par une question de Céline, alors qui était au cours de ta présentation, peut-être pour recadrer. Est-ce que tu peux nous redire comment Habitat et Humanisme a été accompagné par des prestataires au long de la démarche, à quel moment et voilà, mais de manière synthétique.
Oui. Alors sur la première partie, la partie plus que j'ai appelée quantitative, on s'est débrouillé en interne, on a pris un stagiaire. Et on était avec un bénévole et puis une équipe de salariés, voilà, donc c'est pas fini d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, quand on a commencé l'aspect plus qualitatif, on a effectivement fait une consultation auprès de cabinets, il s'en est monté plein, hein, des cabinets d'accompagnement à l'impact social. Voilà. Donc on a choisi un des cabinets qui nous a accompagnés sur cette première partie d'élaboration de la théorie du changement. Actuellement, on travaille juste avec un qualitativiste, enfin, quelqu'un qui nous accompagne en qualité, qui est un mécène, en fait, qui fait des mécènes de compétences, donc qui nous accompagne, ça fait plusieurs fois qu'on fait du travail avec ce cabinet, voilà. Mais il y a énormément de ressources internes qui sont monopolisées, hein, je dirais, parce que voilà, l'accompagnement est quand même léger par rapport au travail interne, je dirais. C'est un peu ce qu'a dit mon prédécesseur, d'ailleurs. Je pense que c'est vrai et c'est une réalité que ça ne peut pas être délégué. Donc, on peut avoir un accompagnement méthodologique, mais le boulot, il est fait en interne. Et donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps.
Merci. On a une autre question de Lucie qui pose la question de savoir si établir une théorie du changement, donc utiliser la théorie du changement à Habitat Humanisme, ça vous a été utile par rapport à votre besoin ou, enfin, voilà, qu'est-ce que vous en tirez comme apprentissage?
Comme je le disais, je pense que le premier bénéfice, ça aurait été d'adopter une vision partagée. Voilà, de se mettre autour d'une table et de vraiment décortiquer et finalement d'aboutir, parce que c'est pas si simple en fait de se dire quels sont les impacts recherchés, qu'est-ce qu'on imagine que notre action produit, parce que je veux dire autant d'acteurs, autant de visions. Donc en fait, le fait de faire ce travail d'analyse et de confrontation interne a été vraiment réellement bénéfique, et ça nous permet quand même d'avoir un cadre, je veux dire, ensuite on a mené des entretiens exploratoires, mais qui étaient quand même dans un cadre qu'on avait déjà pensé, hein, je veux dire, et donc ça a quand même aussi beaucoup rétréci le champ. Voilà, donc oui, ça a été très utile dans ce sens, mais c'était nécessaire, mais pas suffisant, voilà.